Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui vous accompagne au cours des 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. Des dommages infligés au vaisseau sanguin de la rétine. C'est une maladie, ça crée une maladie qui s'appelle la rétinopathie. Je le savais que j'aurais de la misère, que je m'accrocherais sur ce mot-là. Peut-être parce que c'est assez méconnu comme maladie. Donc, la rétinopathie qui peut causer la cécité et notamment chez les bébés prématurés. On parle de 5 % des bébés prématurés qui pourraient être à risque de perdre la vue à cause de la rétinopathie. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des chercheurs, une équipe de chercheurs et de pédiatres du CHU Sainte-Justine et de l'Université de Montréal qui ont publié tout dernièrement une étude qui arriverait à prévenir la rétinopathie. J'en parlerai en deuxième partie d'émission avec le docteur Sylvain Chemtob. Mais tout d'abord, 747 000, c'est le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et ça c'est au Canada seulement. Au Québec, c'est 150 000 personnes qui sont atteintes. L'évolution de la maladie d'Alzheimer, ça a diverses conséquences. Vous pouvez vous en douter, beaucoup d'impact sur la santé de la personne atteinte, dont l'alimentation, la nutrition. Comment on peut maintenir le plaisir de manger? Comment on peut continuer à apporter tous les apports nutritionnels suffisants, satisfaisants? Je vais en parler avec Nézar Hamoud, lui qui est nutritionniste à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, et ce, dans quelques instants. Bonjour Nézar.
Bonjour, bonjour et merci de m'avoir invité à votre émission.
Merci beaucoup d'être là également. Facile de s'imaginer qu'à cause de différents troubles de l'orientation, perte de mémoire, perte aussi de tout ce qui est lié au temps, la notion du temps, de l'espace, les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer arrivent plus à se nourrir de façon satisfaisante, correctement. Et bien sûr, on peut penser aussi perte d'odorat, de goût. Et ça, je l'ai appris en lisant, en préparant l'émission, mais c'est facile de comprendre qu'il y a une perte d'appétit quand on n'a plus le goût. On perd même la mémoire de ce que peut goûter les aliments, les choses. Donc, ça a beaucoup de conséquences, la perte d'appétit chez les personnes atteintes d'Alzheimer. Est-ce qu'il y a d'autres changements qui peuvent survenir quand on est atteint d'Alzheimer?
Absolument, merci pour la question. Donc, tout d'abord, si vous me permettez, j'aimerais bien commencer par dire un petit mot concernant la maladie Alzheimer comme telle. Donc, et pourquoi on l'appelle DTA, démence de type Alzheimer? Mm-hmm. C'est parce qu'elle fait partie d'un groupe de maladies apparentées qu'on appelle le groupe de maladies de troubles cognitifs ou de démence. Donc, dans ce groupe, on trouve d'autres maladies aussi, comme la maladie cérébrovasculaire, la démence mixte, la maladie de Parkinson, Huntington, etc. La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées ne font pas partie du vieillissement, du processus du vieillissement normal.
Ah oui. Mm-hmm.
Donc, près de 40% des personnes de plus de 65 ans éprouvent une certaine perte de mémoire, mais ça, ce n'est pas pathologique. Lorsqu'aucun état médical sous-jacent ne cause pas cette perte de mémoire, on lui donne le nom tout simplement de trouble de la mémoire lié à l'âge. Donc, ce n'est pas Alzheimer, donc n'ayez pas peur de ça. Un trouble de la mémoire commence à devenir problématique ou pathologique, si vous voulez, s'il affecte la vie de tous les jours. Donc, il est important de dire que la plupart des adultes âgés de 65 ans et plus ne développent pas l'Alzheimer. Certains auteurs, la démence de type Alzheimer représente environ la moitié des cas de démence. Certains auteurs disent qu'elle représente 64% des maladies neurodégénératives au Canada. Donc, pour retourner à votre question au niveau alimentaire, la démence de type Alzheimer est associée à des changements progressifs au niveau du comportement alimentaire. Et c'est un peu plus profond de ce que vous venez de dire. L'anorexie, par exemple, peut survenir dans les phases avancées de la maladie et contribuer à la perte de poids.
Pourquoi l'anorexie, elle surgit?
Tout à fait, parce que comme vous avez dit tout de suite, c'est au niveau du cerveau. Donc ça dépend. Et nous avons une maladie, nous avons un titre général, la démence de type Alzheimer, mais ce n'est pas tous les patients qui ont la même sorte, si vous voulez, de maladie. Donc ça dépend de la région atteinte. Mm-hmm. Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est vraiment cortical? Donc ça dépend du lobe aussi. Est-ce que c'est occipital? Est-ce que c'est pariétal? Donc ça dépend de ça, effectivement. Donc il y a certains patients qui développent l'anorexie. Généralement, la perte de poids survient durant les premiers stades de la maladie mm-hmm. et se poursuit tout le long de la progression. Les causes de la perte pondérale ou la perte de poids comme telle sont multiples. Je peux y en nommer. Troubles de comportement, tout simplement, comme vous avez mentionné, oublier de manger, difficulté à avaler ou ce qu'on appelle dans les hôpitaux, dans le jargon des hôpitaux, la dysphagie. Mm-hmm. Et puis, certains auteurs parlent de l'augmentation des besoins énergétiques intrinsèques. Cette cause est peu probable, d'après moi, et elle est au moins controversée. Donc, oui?
Donc, tous ces changements-là ont bien sûr beaucoup d'effets sur la santé globale du patient.
Tout à fait, absolument.
On parle souvent de dénutrition en ce qui a trait aux personnes atteintes d'Alzheimer.
Ben, la dénutrition, au niveau de la personne âgée, le vieillissement comme tel, c'est un facteur important. Mm-hmm. Même le vieillissement normal, disons, c'est un facteur important de la dénutrition. Mais donc, imaginez-vous, si jamais on a vieillissement et en plus de ça, nous avons démence de type Alzheimer ensemble. Donc, si vous voulez parler de la...
De la dénutrition, oui. Oh,
et, donc, comme j'ai dit, le vieillissement est déjà un facteur de risque pour le syndrome de la malnutrition. Selon Statistique Canada, par exemple, en 2013, 35% de la population canadienne âgée est à risque de la malnutrition. Et ici, on parle de la population gériatrique en général. Donc, la prévalence de la malnutrition à l'admission en milieu hospitalier, selon une étude faite en 2010, est de 12 à 72 %, et c'est beaucoup. En tant que nutritionniste, nous faisons face à cette réalité à tous les jours. La personne âgée est évidemment à risque très élevé d'être dénutrie. Elle a tendance à oublier, comme on vient de mentionner, à oublier de manger, à sauter des repas, à avoir de la difficulté à avaler, perte d'appétit, la polypharmacie aussi, c'est-à-dire la quantité est parfois énorme de médicaments qui sont pris ouais. en même temps. Donc tout ouais. ça, avec l'isolement social, etc., tout ça, ça fait augmenter beaucoup le risque de la malnutrition.
Et il y a des effets, j'imagine. Est-ce que la personne qui vit avec l'Alzheimer, bon, bien sûr, elle prend des médicaments. Est-ce que cette médication-là a un effet sur ce qu'elle mange ou vice-versa? Si les aliments peuvent modifier la médication qu'elle prend?
Ben, pas vraiment. Les médicaments prescrits aujourd'hui contre les symptômes de la maladie d'Alzheimer, il faut dire ici que les médicaments ne sont pas les médicaments pour guérir. Il n'y a pas une guérison maintenant, il n'y a pas un traitement pour la maladie d'Alzheimer. Donc, ce sont des médicaments qui aident à atténuer un peu, à prolonger un peu la période des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc, les médicaments, généralement, sont les inhibiteurs qu'on appelle de la choline estérase, qui est une enzyme au niveau du cerveau. Donc, c'est comme Donepezil, le nom commercial de ça, c'est Aricept. Nous avons la galantamine, la rivastigmine, ainsi que la mémantine. Donc, tous ces médicaments, ils ont des effets secondaires. Comme, par exemple, ça donne parfois de la diarrhée. Comme j'ai dit, ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, ça fait ça donne la diarrhée, ça donne la nausée, ça peut augmenter l'acide gastrique, donc des brûlures d'estomac, des RGO qu'on appelle des reflux, et des pertes de poids. Qui mène enfin à l'anorexie. Donc la polypharmacie, c'est-à-dire la médication, joue un rôle très important. Et ainsi, il faut consulter vraiment la pharmacie, le pharmacien et le médecin mm-hmm. pour faire un suivi à ce niveau, parce que c'est très important.
Nézard, vous travaillez à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Vous êtes nutritionniste, donc vous êtes là pour encadrer les gens qui y résident ou qui consultent et qui vivent avec des personnes plus âgées, qui vivent avec différentes maladies.
Oui.
En ce qui a trait aux gens qui sont de proches aidants, donc c'est-à-dire que la personne atteinte d'Alzheimer est encore à la maison et il y a un membre proche de sa famille qui est là pour superviser, pour donner les soins également. On fait comment pour modifier, pour adapter l'alimentation, c'est-à-dire pour éviter tous les problèmes qu'on a mentionnés, dénutrition, anorexie, perte d'appétit, c'est-à-dire que, bien sûr, j'imagine que c'est là, mais on fait comment pour combler ça, pour éviter les effets?
Ben, c'est une bonne question, merci. En effet, aidant naturel, c'est pas simple. Mm-hmm. C'est pas facile. C'est pas facile à vivre avec une personne touchée par cette maladie. J'aimerais ici peut-être attirer l'attention de nos chers auditeurs sur la présence d'un livre guide pertinent réalisé par l'équipe de la nutrition Mémoire dans le centre de recherche à l'IUGM, c'est-à-dire à l'Institut Université de Gériatrie de Montréal. On y trouve beaucoup de conseils vraiment très pratiques et des trucs simples pour vaincre la dénutrition chez la personne âgée atteinte d'Alzheimer.
Et c'est les proches aidants qui sont visés par cette publication-là.
Exactement. Ouais. Donc, la clientèle cible, si vous voulez, de ce guide, de cet effort qui a été fait par le centre de recherche, c'est vraiment les aidants naturels. Donc, comme je peux citer ici quelques trucs, pour le refus, par exemple, de s'alimenter, si la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc refuse tout simplement de s'alimenter. Donc, il faut faire tout d'abord le bilan général de l'état de santé, comme chercher les douleurs, si jamais, donc, et chercher à comprendre les signes que la personne donne. Ici, bien sûr, je parle de la personne atteinte de maladie d'Alzheimer, mais à stade avancé. Je ne parle pas de la première stade ou la stade légère. Du stade léger. Donc, voir l'état de la dentition aussi, c'est-à-dire la santé buccale, c'est très important. Voir des abcès, l'état de la gencive, parce qu'à un stade avancé, la personne arrête de s'exprimer comme il faut, donc il faut vraiment comprendre. Donc, c'est les dents naturelles qui comprennent plus les signes donnés par la personne atteinte. Essayer aussi de retrouver les préférences alimentaires de la personne et pourquoi pas plonger dans le passé.
Faire plaisir aussi, hein? Il faut s'accorder le droit de faire plaisir, j'imagine, à la personne malade.
Ben, vous savez, dans un milieu hospitalier comme l'IUGM, par exemple, le plaisir de la personne reste un des buts, c'est-à-dire de nos interventions. Donc, il faut toujours, même maladie Alzheimer, même perte de mémoire, même perte de capacité à comprendre l'environnement, on est toujours, entre parenthèses, éthiquement parlant, obligé à respecter la volonté de la personne. Donc, je continue là, pourquoi pas au niveau des préférences alimentaires plongées dans le passé, parce qu'on perd la mémoire à court terme, donc il faut chercher les préférences peut-être de l'enfance et tout ça. Voir aussi, comme j'ai dit tout de suite, la pharmacie pour diminuer ou bien substituer les médicaments qui coupent l'appétit. Essayer l'utilisation des épices, des condiments, parce que les goûts, comme vous avez mentionné au début de l'émission, les goûts changent avec l'âge et avec
la maladie
comme telle. Donc, par exemple, il y a plusieurs trucs à respecter, à faire, à essayer, comme mariner toujours la viande, parfumer le lait d'essence de vanille, par exemple. Prendre en considération que les personnes atteintes aiment plus le sucré, mettre de la sauce ou du bouillon comme tel sur les mets pour faciliter la déglutition, si jamais il y a un problème de déglutition ou de dysphagie, éviter la solitude, surtout isolement social, c'est très 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 important, c'est-à-dire manger toujours avec la personne sur un milieu calme, serein, etc. Manger en dehors quand c'est possible, sortez, essayez de sortir avec la personne, parce que là, sortir, voir les gens autour de lui, ça va peut-être augmenter l'appétit. Manger des petites quantités, mais plus souvent durant la journée. Donc tout ça, ça peut aider les personnes, les aidants naturels à domicile pour essayer de contourner ce problème si jamais.
Donc on peut favoriser les collations.
Tout à fait. Les collations riches, denses, je dirais. Au début de la maladie, c'est-à-dire le stade léger de la maladie, la perte pondérale, ça peut commencer, mais ce n'est pas vraiment un danger imminent. Disons, pour la santé de la personne. Sauf que plus on avance, plus le risque est là, plus la perte pondérale non volontaire commence à apparaître. Donc là, le but, c'est vraiment de donner des aliments denses au niveau énergétique et protéique pour aller donner à la personne les besoins, pour combler les besoins, via un volume diminué le plus possible des aliments.
Nizar, est-ce qu'il faut peser les personnes atteintes d'Alzheimer assez souvent?
Absolument. C'est une question très simple que vous posez, mais c'est très important quand même.
Quand on parle de perte de poids, de dénutrition, d'anorexie, c'est sûr que c'est une question qui vient assez facilement.
Oui, donc au niveau du poids, par exemple, c'est une question simple, comme j'ai dit, est importante. Donc la perte pondérale comme telle, et ici, il faut toujours qu'on parle de la perte pondérale involontaire. Donc, est un signe évident de la dénutrition. Et là, attention aux chiffres. Je vais nommer quelques chiffres, là. Ce n'est pas à retenir, mais peut-être à prendre en conscience c'est ce processus. Donc, si la personne atteinte de démence de type Alzheimer perd 5% et plus de son poids habituel dans un mois, ou 7,5% et plus de son poids habituel dans 3 mois, ou 10% et plus de son poids habituel dans 6 mois, ça commence à être beaucoup, hein, les chiffres, ou 20% et plus dans une année, on est devant une dénutrition modérée à sévère. Donc, il faut vraiment suivre le poids. Moi, je suggère fortement, je conseille de peser aux 2 semaines et puis garder un registre pour voir la courbe pondérale, comment ça avance, puis réagir en fonction de ça.
Est-ce qu'on propose des suppléments alimentaires pour contrer la dénutrition?
Comme tel, si on arrive à contourner, à surmonter toutes les difficultés qui sont liées à l'alimentation comme tel, non, la réponse est non. Si jamais l'alimentation est équilibrée, si jamais les assiettes sont bien garnies, puis si jamais l'appétit est toujours là, puis la personne accepte de manger, la réponse est non. Mais une fois les signes de dénutrition commencent à apparaître, donc là, à ce moment-là, tout est permis pour vaincre la dénutrition, y compris l'enrichissement des aliments et l'utilisation des suppléments, bien sûr. Et puis là, sur le marché, si c'est difficile de faire, c'est possible de faire des suppléments à la maison, même entre parenthèses, comme les milkshakes enrichis, faire une diète comme ça, facile à prendre, à domicile, faite maison. Même si c'est ça difficile, c'est de faire ça à la maison, c'est-à-dire via des recettes maison, il y a une grande panoplie sur le marché de suppléments riches, vraiment denses au niveau énergétique et protéique.
Et Nizar, je reviens aux aidants naturels qui peut-être nous écoutent à la maison. On fait quoi quand la personne malade, atteinte de la maladie d'Alzheimer, refuse de s'alimenter afin de s'assurer qu'il y ait quand même une prise alimentaire là, quotidienne?
Comme j'ai mentionné tout de suite, il y a plusieurs trucs à faire. Comme j'ai dit, là, je pense qu'on a passé à travers un peu rapidement via le petit livre guide que j'ai parlé.
Le plaisir, en tout cas, moi, je retiens ça beaucoup.
Pour le plaisir, effectivement.
Oui.
Donc, c'est toujours chercher des petits trucs qui peuvent aider à ça. Comme par exemple, peut-être afficher sur le frigo les heures des repas.
Ah oui, c'est une bonne idée, ça.
Mettre des flèches dans la maison qui disent, c'est ici telle ou telle chose, donc c'est où là? La farine, c'est où le supplément, justement, dans le frigo. Donc, aider tout ça, se mettre dans la peau de la personne atteinte. Imaginez-vous que vous perdez un peu de mémoire. Donc, c'est quoi les choses qu'il faut, qui peuvent vous aider?
Ouais.
Donc, essayez de faire ça. Comme par exemple, je peux parler aussi pour l'oubli de s'alimenter ou de s'hydrater, peut-être laisser les aliments préférés à portée de main et à la vue de la personne, toujours. Mmh. Rappeler de manger avant chaque repas habituel. Installer des affiches, comme je viens de dire, à divers endroits et ne pas oublier, c'est-à-dire pour ne pas oublier de manger, mettre des images aussi et des dessins qui peuvent aider. Donc, offrir souvent, ça aussi, c'est très important au niveau de l'hydratation comme telle, parce que l'hydratation, on peut parfois combler les besoins au niveau calories et énergie, mais au niveau hydrique, c'est difficile, surtout qu'il y a des personnes âgées, même oubliant la démence de type Alzheimer, donc il y a des personnes âgées qui évitent de boire pour ne pas aller tout simplement à la toilette.
Ouais.
Donc ça, c'est très, très répandu. Donc il faut offrir souvent de l'eau, des liquides à la personne atteinte pour assurer une bonne hydratation. Parce que la question d'hydratation, c'est pas simple. La question d'hydratation peut être jumelée à une augmentation de risque de chute aussi, à fracture de hanche, au délirium qu'on appelle. Donc, c'est pas si simple que ça et ça peut être très, très grave.
Et bien sûr, si la personne est toujours résidente de sa maison, finalement, si on est un aidant naturel, on s'assure que le frigo est plein. On fait les courses parce qu'il y a aussi, bien sûr, tout ce danger-là là, d'oublier de faire les emplettes ou d'oublier qu'il y a des aliments dans le frigo. Donc, j'imagine qu'il faut, bien sûr, gérer tout ça. Nizar, vous nous rappelez en terminant le titre du guide que vous avez mentionné tout à l'heure. Vous ne l'avez pas sous les yeux, hein,
je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est un guide fait à l'IUGM. Tout simplement, aller dans le site de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, puis le centre de recherche. Puis là, vous allez voir, je pense que ça s'appelle un guide pratique pour les aidants naturels, justement, les aidants des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Donc, je pense que c'est ça le titre.
www.iugm.qc.ca Nizar Hamoud, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous rencontrer et de vous parler aujourd'hui.
Merci beaucoup, chère madame.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Bonjour, Dr Chemtob.
Bonjour, Madame Paquette.
Alors, le 14 septembre dernier, vous avez publié une étude qui est en lien avec une découverte qui permettrait de prévenir la cécité, notamment celle liée à la rétinopathie du prématuré. Vous ne m'avez pas entendu en ouverture d'émission, Dr Sylvain Chemtob, mais je me suis accrochée au moins trois fois sur le mot rétinopathie. Et ce que je disais, c'est que c'est peut-être parce que c'est tellement méconnu. C'est quoi la rétinopathie du prématuré?
Essentiellement, la les rétinopathies en général, ce sont des pathologies, ça veut dire de la rétine. Celle qui s'appelle la rétinopathie du prématuré, c'est essentiellement une pathologie qui est caractérisée où il y a un arrêt de la croissance normale des vaisseaux sanguins de la rétine, associé avec une dégénérescence de ces petits vaisseaux, donc de telle sorte à ce que en fait, la rétine devient en fait pauvre en vascularisation. Et par la suite, ceci mène alors à une prolifération exagérée et anormale de petits vaisseaux qui, au lieu de pousser normalement, revasculariser la rétine, elle pousse à l'intérieur d'une partie gélatineuse de l'œil qu'on appelle le vitré. Et ceci est assez grave parce qu'en fait, ça pourrait mettre une traction, causer en fait un détachement rétinien, un décollement de la rétine et une cécité.
Et est-ce que ça touche seulement les enfants prématurés?
La rétinopathie du prématuré, c'est vraiment une condition qui est vraiment du prématuré, malgré que il y a des pathologies qui ressemblent beaucoup à la rétinopathie du prématuré, telle la rétinopathie diabétique. Mais celle du prématuré, c'est vraiment le prématuré, c'est-à-dire que l'enfant, à terme, n'est pas en fait prédisposé à avoir une telle rétinopathie.
Ah, OK. Et c'est assez fréquent chez le bébé prématuré. On parle que ça touche 5% d'entre eux.
Alors, lorsqu'on parle de la prématurité en général, on parle de... Oui, c'est vrai, parce que si on parle de toute la prématurité, c'est-à-dire tout enfant qui est moins de 36 semaines de gestation, ça n'affecte que 6%. Mais le taux de rétinopathie est inversement proportionnel à la prématurité, à la gestationnelle. C'est-à-dire, plus la gestationnelle est petit, plus le risque d'avoir une rétinopathie est grand. De telle sorte à ce qu'à 23 semaines de gestation, qui est 23-24 semaines la limite de viabilité actuellement, le taux de rétinopathie est de l'ordre d'environ de 65%. Avec les grades sévères qui représentent la moitié de ceux-ci, donc à peu près 35%.
Et ça mène vers la cécité, absolument.
Pas toute rétinopathie mène à la cécité, mais c'est-à-dire ils augmentent le risque d'avoir une cécité. Et alors c'est pour cela que ces bébés sont suivis de façon très rigoureuse pendant les premières semaines après la naissance, de telle sorte à ce que on évite cette pousse anormale de vaisseaux dans le vitré qui peut mener à une cécité.
Votre étude menée de pair avec le docteur Jean-Sébastien Joyal, le docteur Chemtob, qu'est-ce que ça a révélé?
Alors, notre étude dans la revue Nature Medicine de ce mois-ci révèle en fait qu'une cible qu'on appelle... qui a un acronyme qui s'appelle PAR2, P-A-R-2, ou en fait F2-R-L-1, c'est la même cible. Ça veut dire une cible, ça veut dire une protéine qui a une action. Elle joue un rôle particulier dans le développement de la vasculature de la rétine, et ceci dépendamment de sa localisation dans la cellule. De telle sorte à ce qu'une diminution de son activité aggrave le développement vasculaire. Une activité normale permet une vascularisation adéquate et une augmentation de son activité stimule une vascularisation dans des conditions qui favorisent une rétinopathie du prématuré.
Donc, ça vous permettra de développer des médicaments afin de prévenir la rétinopathie.
Oui, vous avez tout à fait raison. À date, en fait, il n'existe pas de médicaments qui permettent d'accélérer une revascularisation normale de la rétine.
Okay.
Ce que nous avons, c'est une vascularisation anormale dans la partie gélatineuse. Alors, cette étude souligne en fait l'importance de la cible en question, qui est le PAR2, Et en fait, malgré qu'il y a plusieurs efforts de développer des médicaments qui stimulent cette cible d'intérêt en question, il y a peu de médicaments qui sont en fait sont allés en phase même préclinique formelle ou clinique. Et nous travaillons assez fort dans cette perspective-là avec un groupe expert en chimie afin de découvrir de nouveaux stimulants de ce récepteur-là.
J'ai une question un peu idiote qui me vient spontanément. Docteur Chemtob, vous qui êtes pédiatre du côté du CHU Sainte-Justine, on fera comment pour administrer, peut-être que ma question est trop prématurée, c'est vraiment le sujet du jour, mais est-ce qu'on fera comment pour administrer le médicament au tout petit bébé?
Alors, en ce moment, par exemple, pour les bébés qui ont une pousse exagérée et anormale de vaisseaux dans la partie gélatineuse de l'œil, qu'on appelle le vitré, ce que les ophtalmologistes y font, ils injectent un médicament qui s'appelle l'Avastin. Comme c'est le même médicament en fait, qu'on injecte, par exemple, chez les patients qui ont une dégénérescence maculaire avec une prolifération anormale des vaisseaux. Alors, c'est en intravitré qu'on injecterait. L'avantage de le donner en intravitré, c'est qu'on cible spécifiquement l'organe, l'œil, et on réduit aussi une diffusion de médicaments dans d'autres parties de l'organisme en entier qui pourraient avoir des effets qui pourraient être indésirables. Donc, on limite vraiment l'action du médicament dans la région qui nous concerne.
Docteur Sylvain Chemtob, tout ça est fascinant et on continuera bien sûr à suivre cette étude-là qui peut-être va fournir d'autres potentiels thérapeutiques pour d'autres types de maladies. Je rappelle que vous êtes pédiatre du côté du CHU Sainte-Justine, également professeur titulaire à l'Université de Montréal, et que cette étude menée de pair avec le docteur Jean-Sébastien Joyal tente de prévenir la cécité chez les prématurés à risque de rétinopathie. Je l'ai dit comme il faut cette fois-ci. Merci beaucoup, docteur Chemtob.
Merci beaucoup, Madame Paquette. Au revoir.
Au revoir. Eh bien, c'était Kamal Salifou à la mise en onde de cette émission. Marianne Paquette au micro. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre au canalm.org pour me joindre mpaquette@vusezvoix.com ou le 1-800-361-0635 poste 220. Nous, on est de retour demain, oui, pour la dernière de C'est bon pour la santé. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.